Nous allons aborder ce soir la Paracha Vaïshev en insistant sur un thème particulier, celui de la jalousie entre les frères et des rêves. Ils sont liés, les rêves de Yosef qui ont alimenté cette jalousie. Au passage, nous présenterons deux thèmes intéressants aussi, c'est la prédestination et le libre arbitre d'une part. Parce que quand il y a rêve prophétique, c'est donc un futur qui se dessine. Or, le futur, s'il se produit, cela laisse entendre que c'est inévitable, qu'il n'y a pas de libre arbitre. Et un deuxième aspect, c'est l'opposition entre rationaliste et mystique dans l'interprétation de la Torah. La lecture de cette paracha Vaïchev, en fait, le vu selon le Pardès montre qu'elle ne rapporte pas seulement une histoire familiale dramatique. C'est aussi une allusion à la présence divine, à la Shekhina, dans l'exil d'Israël, préparant à la rédemption. Tout ça est en interligne, j'allais dire. Ce mot Vaïchev, le mot qui commence cette paracha, c'est Vaïchev, et déjà on a une indication de la souffrance de Yaakov avec ce mot. Parce que Yaakov va souffrir du fait de la mort présumée de Yosef. Dans le mot Vaïchev, on remarque que les quatre personnes desquelles Yaakov eut à souffrir, eh bien, sont Yosef, Dina, Ressav et Lavan. Et toutes ces personnes-là, la deuxième lettre de leur nom compose le mot Vaïchev. Vous voyez, on l'a vu déjà à plusieurs reprises, il y a énormément de sens dans la Torah, et là, on en a un de plus qui apparaît, Vaïchev, Yaakov, etc., etc., mais Vaïchev fait allusion aux grandes souffrances qu'a eues Yaakov dans sa vie, puisqu'on a ici Yosef, la deuxième lettre c'est un vav, c'est donc le vav de Yosef, on retrouve le vav dans Vaïchev, le yod de Dina, on le retrouve dans Vaïchev, le shin de Ressav également, il est dans ce mot, et le bet de Lavan également. Donc voilà une petite allusion pour commencer. Cette paracha a ces mots très forts, quatre mots qui nous interpellent. Ele toldot Yaakov, Yosef. Bon, bien sûr, il y a le sauf passou qui est un signe qui indique qu'en fait la phrase se termine à Yaakov. Mais vous savez que les rabbins, en interprétant, tiennent compte du texte aussi, sans compter les théramim, selon le cas, bien entendu, selon ce que nous enseigne la Torah orale. Et les toldot Yaakov, Yosef. C'est une manière de dire que l'histoire de Yaakov, eh bien, elle est quelque part incarné dans Yosef, parce que toute l'histoire des descendants de Jacob va se refléter en celle de Yosef. Yosef va être contraint de fuir sa maison et son pays. Cela fait allusion aux exils vers Mitzrayim, bien sûr, mais également tous les autres exils de l'histoire jusqu'au retour annoncé par les prophètes et que nous avons le privilège de déjà voir de nos jours commencer. Toutes les péripéties de la destinée de Yosef vont devenir le tremplin de son ascension. On se rend compte de ça dans la paracha. Il va commencer d'une manière très difficile, et puis, à la fin, on le voit nourrir des peuples, nourrir ses frères, nourrir les peuples venant en Égypte acheter de la nourriture, et on voit que ses frères, qui furent hostiles, vont s'agenouiller devant lui. Il y a bien entendu une évocation messianique derrière cette histoire. Cette même destinée de Yosef va se reproduire dans l'histoire d'Israël. À la venue du Mashiach, les nations vont reconnaître que les épreuves et les malheurs de notre exil furent autant d'échelons vers notre élévation. À tel point que le prophète Yeshaya indique: Je te remercie, Hachem, d'avoir fait éclater sur moi ta colère. C'est extrêmement fort. On peut en venir à la fin des temps, quand on comprendra tous les tenants et aboutissants, même la colère, les exils, on comprendra un petit peu tout ça, et on verra que toutes ces tribulations, voulues par la providence divine, vont se révéler comme de véritables bienfaits. Ainsi, Yosef, vendu en esclave, va se retrouver vice-roi d'Égypte. On l'a dit, il y a beaucoup de thèmes dans cette paracha. Nous n'avons pas un temps démesuré, donc on va se concentrer sur un thème, la jalousie des frères de Yosef et les rêves de ce dernier. L'Écriture affirme qu'Israël aimait Yosef plus que ses autres fils, préférence qui nous rappelle celle de Yitzhak pour Esav. Et on sait que cela avait provoqué des tensions familiales considérables. Alors, on a quand même une préférence. Le verset en donne la raison. Israël aimait Yosef, etc. Il était pour lui le fils de sa vieillesse. Et il lui a offert une robe bigarrée, une robe multicolore. On va se dire, la jalousie de tous les frères pour un petit cadeau comme ça, faut quand même pas exagérer. Bon, non. Il faut comprendre que déjà les habits, c'était pas si courant à l'époque. Bon, on n'avait pas une garde-robe comme aujourd'hui, quantité d'habits qu'on oublie, on met toujours les trois mêmes, hein, mais on peut en avoir 10. Pareil pour les chaussures, etc., etc. La robe bigarrée, ça a un autre sens. Et on va s'aider pour comprendre la portée de cette robe, on va s'aider de preuves archéologiques. Voyez-vous, il y a un endroit en Moyenne-Égypte, c'est-à-dire au sud du delta, pas encore au niveau de la Haute-Égypte, mais disons de la partie moyenne de l'Égypte, on a ce qu'on appelle les fresques de Beni Hassan. C'est un lieu où se trouvent une quarantaine de tombeaux de dignitaires égyptiens, et on a conservé d'extraordinaires fresques murales représentant des scènes de la vie quotidienne, et parmi elles, des chefs sémitiques portant des robes bigarrées. Des chefs sémitiques. Non, la robe multicolore était un marqueur de statut. On comprend ainsi que les frères ont tout de suite décodé ce petit cadeau. Ce n'était pas un cadeau d'un jouet, d'un nounours ou d'une tablette. Non, c'était un signe de pouvoir qu'il lui donnait en quelque sorte et qu'il affichait au vu et au su de tout le monde. La préférence de Jacob était quelque part justifiable. Pourquoi? Parce que Rachid nous explique que Yosef était né dans la vieillesse de Jacob et que en quelque sorte Jacob appréciait son disciple et qu'il était, Yosef, particulièrement intelligent. Parce que ce mot zaken ne veut pas dire vieux. C'est aussi une allusion à la sagesse. D'autres nous expliquent que Jacob a transmis à Yosef la sagesse qu'il avait reçue de Shem et de Hever. Quant aux kabbalistes, ils expliquent que Jacob aimait Yosef car la rédemption finale devait venir, au futur bien sûr, devrait venir des enfants de Rachel, c'est-à-dire des tribus de Yosef et de Benjamin. Cette préférence était donc quelque part justifiable pour des raisons spirituelles, affectives éventuellement, mais elle eut des conséquences dramatiques. Dramatiques parce que jalousie, haine, exil, bref, on en tire une conséquence halakhique. Qu'il est, Maïmonide nous précise, qu'il est interdit de faire une distinction, même minime, entre ses enfants pour éviter justement les querelles et les jalousies. Et le Talmud enseigne, un père ne doit jamais distinguer un enfant parmi les autres, car on l'a bien vu, ça apporte beaucoup de soucis. Mais en tout cas, les frères interprétèrent mal la conduite de leur père. Bon, ils s'en sont restés aux apparences, en ne comprenant pas pourquoi Jacob accordait autant de temps à Yosef pour lui enseigner la Torah. En fait, j'ai eu des éclaircissements à ce sujet que je n'ai pas vu ailleurs, que m'a cité Rabbi Eliaou, mon fils, au nom de son Rosh Yeshiva. Et c'est une. En fait, Jacob étudiait avec Yosef les enseignements de Noar reçus à la Shiva de Shem ben Noar donc, et de Hever. L'accent était mis sur la conservation de la Torah en environnement hostile. Le Maboul, le déluge, c'était un environnement hostile, n'est-ce pas? Eh bien, il enseignait la conservation de la Torah d'une manière générale en environnement hostile. Or, Jacob savait par prophétie que Yosef aurait à vivre isolé en milieu hostile. D'où cette... Mais les fils de Jacob, les autres, n'ont pas compris cette préférence, parce que eux n'étudiaient avec leur père que des enseignements d'Abraham et de Yitzhak, mettant notamment l'accent sur la diffusion du monothéisme. Donc voyez-vous, une cause profonde de cette jalousie est son éclaircissement au niveau de la nature de l'étude. En dehors de la jalousie, bien entendu, on a eu les rêves rien arrangés. Car on a un verset, Ve'yahalom Yosef halom. Joseph rêva un rêve, littéralement, hein, eut un rêve. Ce verset inaugure la série des rêves de Yosef, et évidemment, les deux rêves significatifs, hein, le rêve des gerbes et le rêve des astres, n'ont rien fait pour améliorer la situation entre Yosef et ses frères. Parce qu'il leur racontait des rêves qui prédisaient clairement pour lui une destinée hors du commun. Le premier rêve, c'est donc le rêve des gerbes. Il se trouve avec ses frères dans un champ à lier des gerbes de blé. Et voilà que les gerbes de ses frères se prosternent devant la sienne. Et évidemment, il s'est attiré comme réflexion, est-ce que tu dois nous dominer? Ce rêve, en fait, annonce déjà la famine en Égypte, et il annonce que les frères viendront acheter leur blé auprès de Yosef, devenu vice-roi. La gerbe de Yosef debout représente son autorité économique et politique, et les gerbes inclinées, au contraire, la dépendance des frères. Second rêve, le rêve des astres. Et il rêva encore un autre rêve et le raconta à ses frères. Voici. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Bon, quand les frères reçoivent ça, évidemment, c'est un peu fort. Et même Yaakov Avinu a compris que ce rêve concernait toute la famille, lui compris. Et il répliqua, est-ce que nous viendrons, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner devant toi? En fait, le soleil, c'est dans l'interprétation Jacob, la lune, la mer. Ce rêve, un niveau symbolique, bien entendu, non seulement les frères, mais même Yaakov vont devoir reconnaître le rôle providentiel de Joseph qui va les nourrir et qui aura l'autorité d'un vice-roi d'Égypte. Nos maîtres déduisent qu'un rêve ne s'accomplit pas entièrement. La réserve de Yaakov, mais comment tu parles de ta mère? Tu sais bien que Rachel n'est plus là. Donc de là, on tire attention au rêve, tout ce qu'il raconte ne va pas s'accomplir véritablement, même si c'est un rêve prophétique. Et au début de la paracha, enfin dans les premiers versets, on a lu, elle est Toldot Yaakov, Yosef. Or, tous les fils de Jacob avaient de quoi se révolter devant ceci. Mais non, les fils de Jacob, c'est pas Joseph, c'est nous tous, nous, les futures 12 tribus. Ils tenaient à faire partie du peuple d'Israël. Donc ça explique, voyez-vous, cette notion de jalousie. Alors, en dehors du pshat, on a tout ce grand débat entre le... Disons, le Pardès entier. On a beaucoup de manières de voir les choses. Et faut-il considérer le pshat ou bien les autres niveaux? Là-dessus, on a la position du petit-fils de Rashi, Rabbi Shmuel ben Meir, que l'on appelle Rashbam. Il était connu pour privilégier le pshat, c'est-à-dire la compréhension littérale de ce que disent les versets. Contrairement à son grand-père Rashi, qui, dans ses commentaires, qui sont en bas du texte de la Torah dans les Humashim, on voit que Rashi accorde une grande place au Midrashim, donc à la partie drash de la Torah, du Pardès. Au contraire, Rashbam insiste sur la lecture directe, contextuelle du verset. Un exemple célèbre. Bien sûr, les rabbins ne sont pas d'accord avec son interprétation, mais lui va dire, on a écrit dans le début du livre Bereshit, il y eut un soir, il y eut un matin, jour 1, et bien lui déduit, et bien le jour commence le matin et pas la nuit, comme c'est la position rabbinique officielle, tirée et fondée sur la Torah orale, bien entendu, et qui fait autorité. Voyez-vous un peu jusqu'où on peut aller en ne faisant pas J'ose pas, excusez-moi, j'ose pas dire, ne faisant pas attention, s'agissant d'un géant de la Torah comme lui, mais disons en accordant une attention privilégiée à l'un des éclats du diamant, alors que bien entendu, il faut considérer la Torah orale comme fondamentale pour comprendre la Torah. Donc voilà, on a tout un débat qui se trouve ici. Alors en même temps, donc là, on vient de dire le pshat très important, au point de considérer, comme le petit-fils de Rashi, que le pshat est tout à fait fondamental. Il rapporte même, ce petit-fils de Rashi, une discussion qu'il a eue avec son grand-père, comme quoi son grand-père espérait faire un autre commentaire très approfondi sur le sens littéral. Bon, on ne l'a pas eu, la vie humaine est malheureusement limitée à 120 ans. Donc nous avons un débat au niveau du Pardès, et l'on a en particulier un débat entre rationalistes ou mystiques. Parmi les rationalistes, dans l'interprétation de la Torah, nous avons Maïmonide, Saadia Gaon, Ibn Ezra. La Torah doit être comprise à la lumière de la raison. Les mitzvot elles-mêmes ont des raisons rationnelles, morales, sociales, éducatives. Et par exemple, Rambam, c'est-à-dire Maïmonide, va expliquer les sacrifices comme une simple concession à visée pédagogique face aux usages idolâtres, plus qu'une obligation mystique. Au contraire, les mystiques, dont les kabbalistes, bien entendu, on pense à Rizal, à Kadosh, on pense au Baal Shem Tov, etc. La Torah est un texte divin infini. Chaque lettre contient des secrets. Les mitzvot ne sont pas que des règles sociales. Elles sont des actes qui ont des répercussions dans les mondes supérieurs, expliquant les comportements de nos patriarches, mais au contraire des allégories mystiques renvoyant au monde de la Kabbale, et en particulier au monde des séphirotes de la Kabbale, Abraham étant assimilé à Chesed, l'amour, en quelque sorte, Isaac à Gvoura, la rigueur, Jacob à Tiferet, on pourrait dire l'harmonie. Ainsi, les sacrifices, du point de vue des mystiques, ne sont pas comme ce que l'on a dit tout à l'heure pour les rationalistes, mais ils sont vus comme des canaux permettant de réparer les mondes spirituels. Le rabbin Mack aborde ce débat à l'occasion des rêves de Yosef. L'écriture souligne l'importance des forces irrationnelles, dit-il, comme le rêve dans l'existence humaine. Et l'histoire ne se construit pas seulement à partir de réalités sociales, économiques ou politiques, il existe des facteurs d'un tout autre ordre, mais tout aussi puissants. Et d'ailleurs, on constate que dans le conflit qui opposa Joseph, le rêveur, à ses frères réalistes, eh bien c'est le rêveur qui a gagné, c'est le rêveur qui l'a emporté. Donc les rationalistes cherchent à rendre la Torah intelligible et universelle, mais les mystiques cherchent à dévoiler sa profondeur infinie et ses dimensions cachées. On a un autre débat à propos de tous ces sujets, c'est le conflit entre prédestination et libre arbitre. Les rêves de Jacob, comme ceux d'ailleurs plus tard des officiers égyptiens et de Pharaon lui-même, révèlent des événements futurs. Révèlent, c'est-à-dire que le futur est inscrit. Comment concilier prédestination et libre arbitre? Quelle part revient à la responsabilité humaine? Quelle part à un déroulement fixé d'avance? Donc, bien entendu, beaucoup de rabbins se sont penchés sur cette question, et en particulier, il est estimé que les rêves de Joseph ne faisaient que refléter ses pensées dans la journée, n'engageant que sa responsabilité. Ce n'était pas une prophétie. Et quant à Rambam, il estimait que ce problème ne peut être résolu selon la pensée humaine, radicalement différente de la pensée divine. Donc il suggère, Rambam, que Dieu orienta le libre arbitre des fils de Jacob afin qu'ils accomplissent à leur insu le dessein de sa providence. Le Maharsha, dans un commentaire du Talmud, classe les rêves en trois catégories. Bon, trois catégories. Le premier, rêve issu de pensées ou d'influences négatives. Puis, des rêves naturels. qui sont produits de la constitution psychophysiologique. Puis des rêves prophétiques qui relèvent d'une révélation divine. Un 60e de la prophétie, nous dit-on. Pour lui, les rêves de Joseph appartiennent clairement à cette catégorie de rêves prophétiques et il insiste sur le fait que le rêve, eh bien, est un canal imparfait, mais néanmoins porteur d'un message divin. Il explique le marcha que l'interprétation joue un rôle décisif, les rêves étant partiellement prophétiques et partiellement imaginaires, et donc la pensée humaine, la force du dabar, de la parole humaine, orientée la réalité, ce qu'il advient d'un rêve. C'est pourquoi Yosef a fait, on peut le dire, une erreur en racontant ses rêves à ses frères. Il a provoqué leur interprétation hostile. Et du coup, ce qui est arrivé après les rêves, c'est le résultat d'une interprétation hostile. Hostile. Le marcha souligne que la parole a une puissance créatrice, elle peut donner forme à la pensée abstraite du rêve et donc l'influencer. À ce propos, on a une Agada du Talmud qui nous raconte l'histoire d'une femme qui rêva que les poutres de sa maison étaient effondrées. Elle a eu très peur, elle a été voir le grand prêtre de l'époque et elle l'a vu et il lui a interprété le rêve de manière positive. Mais non, ce rêve n'annonçait pas la destruction de sa maison. Au contraire, il annonçait une naissance. Elle aurait un fils bientôt. Parce que les poutres de la maison, c'est la continuité, la stabilité. Si elles ont été brisées, ça indique qu'il va y avoir une transformation positive. Elle aura un enfant. Et ce qui fut le cas. Donc, on a un klal, une maxime prophétique. Les rêves dépendent de leur interprétation. À ce propos, on a là un enseignement. Quand on ne doit pas raconter ses rêves à des personnes hostiles ou malveillantes, car leur interprétation peut orienter le rêve dans une réalisation défavorable. On a un exemple de cela dans cette paracha. Il est écrit clairement quand un des officiers de Pharaon libéré raconte que Yosef a expliqué son rêve. Il dit « Vayi kaasher patar lanu ken aya » comme il nous a interprété. Ainsi fut-il. On a là écrit dans les mots de la Torah que c'est l'interprétation qui a déclenché le résultat. Ainsi, voilà donc, notre réunion va bientôt se terminer. Donc, j'indique pour conclure la dimension sode du Pardès à l'intérieur de cette paracha. Les maîtres de la Kabbalah nous enseignent que la rédemption va venir de l'union entre Yesod et Malchut, c'est-à-dire de Joseph représente Yesod, Malchut est représenté par David ou Yehuda. On constate qu'il y a eu le sujet de Yehuda et de Tamar avec la naissance de la lignée messianique dans cette même paracha. Cette conjonction de sujets n'est pas futile, elle est là parce que ça a du sens. Joseph va préparer le terrain. Dans les termes des kabbalistes, Yesod canalise la lumière. Yehuda, c'est-à-dire David, va réaliser la royauté. En termes de kabbalisme, Malchut reçoit et manifeste dans ce monde. Dans Vaïchev, dans notre paracha, les deux récits sont juxtaposés. Les rêves de Yosef, l'histoire de Yehuda et Tamar, juxtaposition intentionnelle qui montre en quelque sorte que la délivrance messianique est une œuvre à deux voies, celle du Messie Ben Yosef, qui combat les forces matérielles et prépare la rédemption, celle du Messie Ben David, issu de Yehuda, qui va parachever la rédemption et qui va instaurer la royauté divine. Les prophètes annoncent et que la rédemption finale verra Israël reconnu et que les nations se tourneront vers Hachem. On a plusieurs passages de plusieurs prophètes, de Isaïe, de Micha, de Zacharia, où l'on voit ce genre de thème. Le Messie va parachever l'histoire en rétablissant la royauté de David et en rassemblant les exilés. La rédemption n'est pas seulement politique, elle mène à la reconnaissance universelle de Dieu, bientôt et de nos jours. Amen.